L'histoire de la philosophie, c'est un fait. Est-ce que c'est aussi un concept? C'est un fait puisque il y a des manuels d'histoire de la philosophie, il y a des institutions où elle s'enseigne. Il y a donc toute une matérialité de cette histoire de la philosophie qui est absolument incontestable. La question, c'est de savoir si, à côté de ce fait, il y a un concept. Est-ce qu'on peut justifier philosophiquement le fait qu'il existe une histoire de la philosophie? Après tout, ce n'est pas évident. Dans la mesure où il existe plusieurs philosophies, et même un assez grand nombre, où chacune de ces philosophies prétend détenir ou exposer la vérité, et puisqu'elles ne disent pas toutes la même chose, cela pose après tout un problème qu'il puisse exister une succession de philosophies différentes, qui ne s'effacent pas les unes les autres, et que cette succession puisse être appelée quelque chose comme une histoire. Alors, il y a différentes solutions possibles. On peut par exemple, si on est le tenant d'une philosophie, décider que cette philosophie est la vraie, et que les autres sont fausses, ou qu'elles étaient des sortes d'embryons, de préparatifs, mais qu'elles n'ont au fond pas de sens en elles-mêmes, qu'elles sont dépassées par celle que l'on a établie et qui est la vraie. Il est clair que dans ce cas-là, il n'y a pas d'histoire de la philosophie au sens strict. Il n'y a pas d'histoire de philosophie, tout simplement parce qu'il n'y a qu'une seule philosophie. Les autres ne méritant pas véritablement ce titre. C'est une solution, elle est tenable. Et après tout, il y a beaucoup de philosophes qui s'y sont tenus. Il y a une seconde solution, qui est beaucoup plus faible, qui consiste à dire que toutes les philosophies, au fond, disent la même chose. Alors, c'est une solution qui est beaucoup plus faible parce qu'elle élimine tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant à l'intérieur de chaque philosophie, dans la mesure où ce qui est intéressant, c'est précisément ce qu'elle a de particulier et de spécifique. Mais il ne faut pas se dissimuler que cette solution faible est une solution qui est au fond très populaire. Bon, la représentation que beaucoup de gens ont de la philosophie, au singulier, c'est au fond ce qu'il y aurait de commun à toutes les philosophies, c'est-à-dire une sagesse assez vague, qui précisément n'a plus rien de philosophique. Une troisième solution, c'est celle qui consiste à dire, au fond, nous ne nous intéressons pas à la vérité de chaque philosophie, nous la mettons en sorte entre parenthèses, nous intéressons à ce qui fait sa consistance propre, sa spécificité, c'est donc le contraire de la solution précédente, c'est celle par exemple de Martial Guéroux, au fond de toute l'école française d'histoire et philosophie, et dans ce cas-là, étudier une philosophie, c'est étudier son architecture propre, étudier ses concepts, étudier en quoi ces concepts se distinguent des concepts des autres, regarder comment ils sont cohérents entre eux, comment ils sont irréductibles à la fois aux concepts homonymes des autres philosophies ou aux notions homonymes du sens commun. Mais on pourrait remarquer que dans ce cas-là, il n'y a pas non plus d'histoire de la philosophie au sens strict. L'objet de l'étude de la philosophie, c'est chaque philosophie individuellement, mais en réalité, il n'y a rien entre elles. Elles sont comme des monuments fermés, ce qui fait que le terme d'histoire, si on l'utilise quand même, ne peut avoir qu'un sens extrêmement faible, extrêmement neutre. L'histoire, c'est simplement le terrain insignifiant dans lequel se disposent ces monuments significatifs. On pourrait donc faire deux reproches à cette conception de l'histoire et de la philosophie. D'abord, que ce n'est pas une histoire, au sens fort du terme. Et d'autre part, qu'elle ne peut acquérir sa rigueur qu'en mettant paradoxalement, entre parenthèses, ce qui est la revendication des philosophies, à savoir leur vérité. Elle n'arrive à sauver l'intérêt de chaque philosophie qu'en déniant l'exigence de vérité de chacune. Ou plutôt en transformant cette exigence de vérité en exigence de cohérence. Ce qui est quand même tout à fait pareil. Alors, on pourrait envisager peut-être encore une autre solution. Cette autre solution, ce serait celle qui consisterait à accepter le fait que chaque philosophie comporte une exigence de vérité, mais que cette vérité ne doit pas s'entendre au sens de la vérité scientifique. Dans les différentes sciences, l'histoire des sciences consiste à ce que, à chaque fois, le vrai remplace le faux, ou à ce qu'un vrai plus total remplace un vrai partiel qui devient donc faux par la même. Donc, l'histoire de chaque pratique scientifique consiste effectivement à effacer, au moins relativement, certaines traces de son passé en le remplaçant, au nom de la vérité, par quelque chose de plus actuel. Peut-être la vérité des philosophies consiste-t-elle en autre chose ? Consiste-t-elle non pas à énoncer des concepts qui diraient le vrai sur la réalité, mais bien plutôt à prendre des positions qui disent, alors si on ne peut utiliser le terme de vrai dans ce cas-là, utilisant, servons-nous d'un autre terme, qui disent ce qui est juste dans telle circonstance théorique donnée. J'emprunte cette distinction entre dire le vrai et dire le juste aux travaux de Louis Althusser sur l'histoire des sciences et l'histoire des philosophies. Et dans ce cas-là, ce qu'on attend d'une philosophie, ça n'est effectivement pas qu'elle dise la même chose que toutes les autres, ça n'est pas non plus qu'elle soit la seule à dire la vérité et efface par la même toutes les autres, mais c'est qu'elle dise, dans certaines circonstances données, c'est-à-dire par exemple face à un certain développement des sciences, ou face à certaines questions politiques qui lui sont posées par la réalité de son temps, qu'elle dise ce qui est juste, ou bien qu'elle ne le dise pas, il y a des philosophies qui sont justes et d'autres qui ne le sont pas, et qu'elle organise sa cohérence, car effectivement, il y a bien un problème de cohérence dans une philosophie, qu'elle organise sa cohérence par rapport à cette exigence de justesse. Et dans ce cas-là, il y a une place pour l'histoire de la philosophie qui n'est pas simplement la répétition indéfinie du même, ou bien un lieu vide dans lequel viennent s'inscrire des monuments cohérents qui n'ont aucun rapport entre eux. L'histoire de la philosophie, c'est l'histoire des conditions scientifiques, politiques, idéologiques dans lesquelles se constituent les philosophies, de leur rapport à ce contexte, c'est-à-dire de ce qu'elles empruntent comme question, comme exigence conceptuelle à ce contexte, de ce qu'elles fabriquent comme catégorie philosophique qui ont un autre type de fonctionnement que les concepts scientifiques, et de ce que ces catégories philosophiques rendent à ce contexte. Car le rapport au contexte, il se fait dans les deux sens. La philosophie doit quelque chose aux sciences et à la politique face auxquelles elle se trouve, et elle rend quelque chose en termes de cohérence, de validité, de légitimation à ce contexte qui en avait besoin et qui le formulait d'une certaine façon. Il y a donc bien la place pour quelque chose comme une histoire, même si c'est une histoire qui n'est pas la même chose que l'histoire des sciences, qui n'est pas la même chose que l'histoire politique, qui a son rythme propre, qui a ses formes d'existence propres, et qui consiste à la fois à analyser la cohérence interne forte de chaque philosophie et le type de relation extrêmement fine et extrêmement complexe qu'elle entretient avec ces différents contextes. Est-ce que cela suffit ? Est-ce que, outre cette cohérence interne et ces exigences et ce va-et-vient contextuel, il n'y a pas autre chose ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme une histoire interne à la philosophie ? Quelque chose qui serait la tradition philosophique proprement dit. Oui, il y a cela aussi. Chaque philosophie hérite des autres philosophies, ne serait-ce par exemple qu'un vocabulaire, qu'un lexique, un lexique logique, un lexique métaphysique, un lexique de termes tout près dans chacune des disciplines philosophiques. Mais ce qui est caractéristique peut-être de la démarche propre de la philosophie, c'est que ce lexique, il est bien plus utilisé comme un champ de repères conflictuels que comme un vocabulaire que l'on pourrait utiliser, fixer une fois pour toutes. Ce que fait chaque philosophie de ce lexique dont elle hérite, et des enjeux qui sont portés par ce lexique, c'est de le remanier profondément en fonction des indications contradictoires que donne ce lexique et de ce qu'elle peut lui apporter de nouveau. Au fond, la tradition philosophique, c'est d'une part une tradition conflictuelle. Le lexique de la philosophie consiste à dire dans tel champ, il y a au moins deux positions possibles et qui utilisera tel mot sera d'un côté, qui utilisera tel autre mot sera de l'autre côté, ou bien qui utilisera tel mot avec tel sens sera d'un côté, qui utilisera tel mot avec tel autre sens sera de l'autre côté. Et en même temps, le lexique, c'est une possibilité ouverte de transformer ce champ conflictuel en introduisant de nouvelles positions par le remaniement des anciennes pour produire de nouvelles catégories en fonction des exigences contextuelles que je cite tout à l'heure. Donc faire l'histoire de la philosophie, c'est tenir compte à la fois de ce problème de cohérence, de ce problème de contexte et de ce problème de tradition à remanier perpétuellement. Thank you.